Il est 8h.
Très compliqué aujourd'hui de savoir si son nom est dans cette base de données. Ça semble venir d'un logiciel qui permettait à des hôpitaux, à des laboratoires, de pouvoir rentrer toutes les informations que pouvait fournir un patient.
C'est sans doute le plus grand piratage de données en France. Les données médicales de près de 500 000 personnes se retrouvent exposées sur Internet. C'est la stupeur dans l'Essonne après la mort de deux adolescents en moins de 24 heures dans des rixes entre bandes rivales. Fin de la récréation entre les ministres qui se déchiraient au sujet des menus scolaires sans viande. Le coup de sifflet est venu du Premier ministre. Et puis, c'est en ce moment que sont sélectionnées les pierres qui participeront à la reconstruction de Notre-Dame. Nous vous emmènerons dans l'une des carrières qui pourrait être choisie. La stratégie vaccinale européenne. Comment prépare-t-on la deuxième génération de vaccins attendue désormais? L'interview politique avec Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur. Nous parlerons aussi du bras de fer entre l'Europe et les GAFA. Thierry Breton en duplex depuis Bruxelles sur Europe 1 à 8h15.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 8h, c'est avec vous, Rémi Bossaron, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous. Imaginez un peu, vous vous rendez dans un laboratoire médical pour des analyses, vous obtenez vos résultats qui ne regardent que vous, a priori, et pourtant, quelques années plus tard, vous les retrouvez en accès libre sur Internet. C'est ce qui arrive aujourd'hui à près de 500 000 patients suivis en France, comme le racontent nos confrères de Libération. Bonjour Justin Morin.
Bonjour.
Alors d'abord, dites-nous tout simplement, qu'est-ce qu'on retrouve précisément sur cette liste?
C'est assez vertigineux. 491 840 lignes précisément, associées à chaque fois à un nom, un prénom, l'âge, l'adresse, le téléphone, le numéro de sécurité sociale, la mutuelle de patients. Mais ça ne s'arrête pas là. Certains noms sont aussi accompagnés des données médicales sensibles. Le traitement suivi par le patient, son groupe sanguin, une pathologie. On lit par exemple que telle personne a le sida, telle autre est enceinte ou atteinte d'une tumeur au cerveau. Des informations intimes vouées au secret médical qu'a d'abord repéré Damien Bancal il y a une dizaine de jours sur les réseaux sociaux. C'est un journaliste blogueur spécialiste de la cybersécurité.
Ça semble venir d'un logiciel qui permettait à des hôpitaux, à des laboratoires de pouvoir rentrer toutes les informations que pouvait fournir un patient. Les autorités qui maintenant ont l'information, je pense, vont alerter chaque médecin, chaque patient présent dans cette base de données, au moins pour leur dire méfiance aux courriers électroniques que vous allez recevoir ou aux appels téléphoniques d'inconnus qui souhaiteraient vous extraire par exemple des informations.
Et ce sera peut-être le cas dans les jours qui viennent si vous habitez le quart nord-ouest de la France, le plus touché par ces fuites selon le journal Libération, qui précise que ces données proviendraient de prélèvements effectués par des laboratoires entre 2015 et 2020.
Alors Justin, comment cette liste a pu se retrouver sur Internet?
Eh bien, c'est une marchandise monnayable entre pirates informatiques, puisque ces données peuvent être utilisées pour vous contacter et tenter de vous escroquer. Selon Damien Bancal que vous venez d'entendre, ces cybercriminels ont d'abord certainement piraté le logiciel utilisé par les laboratoires médicaux, pas assez sécurisé. Ils ont ainsi volé toutes les données, mais selon lui, ce fichier était l'objet d'une négociation commerciale entre plusieurs pirates qui a pu mal tourner. Au final, elle a été gratuitement diffusée pour lui faire perdre toute sa valeur. Pour le moment, l'Agence nationale des systèmes d'information et la CNIL, le gendarme des données personnelles, n'ont toujours pas réagi à cette fuite massive et inédite.
Merci pour toutes ces explications, Justin Morin, du service police-justice d'Europe 1.
Ce sont deux affaires qui ne sont visiblement pas liées, mais la concordance interpelle, forcément. En moins de 24 heures, deux adolescents ont trouvé la mort dans l'Essonne.
Une fille et un garçon, tous deux âgés de 14 ans, tous deux tués dans des rixes entre bandes rivales, l'une à Saint-Chéron, l'autre à Boussy-Saint-Antoine. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est rendu sur place hier soir. Il a annoncé le renfort immédiat de policiers, mais il a aussi pointé la responsabilité de l'entourage des enfants.
Je crois qu'il faut aussi se dire que la société n'est pas responsable de tout et que les policiers, les gendarmes, les maires ne peuvent pas faire à la place des parents. Une autorité qui consiste à ne pas sortir seul le soir quand on est un jeune adolescent, d'aller suivre des études ou une formation professionnelle, de ne pas avoir ce qui était le cas. Des béquilles, des armes blanches, des barres de fer. Je pense qu'on conviendra tous ensemble que ce n'est pas l'équipement naturel d'un enfant de 13 ans ou de 14 ans dans la rue. On ne peut pas se résoudre dans notre pays, à 13 ou 14 ans, de tomber dans la délinquance et évidemment avoir sa vie fichue parce qu'on a commis un acte absolument irréparable.
Gérald Darmanin, hier soir à Dourdan, donc près de Saint-Chéron, l'une des deux villes endeuillées où les habitants témoignent de rivalités latentes. Joanna Chabas.
Là, clairement, on ne se sent plus du tout en sécurité. On arrive à un stade où on se dit on a peur de ce qui peut se passer quand on sort au parc avec les enfants.
Pourtant, à Saint-Chéron, tout le monde se connaît, se croise dans le parc, se balade dans les bois. Rien ne laisse présager de tels affrontements entre bandes de jeunes. Mais pour Barbara, qui vit ici depuis 31 ans, la rivalité avec la commune voisine de Dourdan est historique.
À l'époque du lycée, il y avait déjà ces problèmes entre Dourdan et Saint-Chéron. C'est déjà arrivé à la gare, c'est déjà arrivé au collège. Les gens se rencontraient, il y avait des bagarres, mais c'était, on va dire, soft encore. Ça en restait vraiment aux mains. Et là, c'est quand même même avec des armes, donc c'est horrible, c'est choquant.
Une rivalité souvent cristallisée sur les réseaux sociaux et selon Aurélie, facilitée par la ligne de RER qui relie les deux villes en 30 minutes.
Mon mari, il me dit que souvent, quand il descend à la gare, il voit des jeunes qui traînent, qui sont un peu agressifs, etc. Ça aussi ramène des gens qui peut-être ne sont pas de la ville et forcément, voilà, ça crée des tensions entre les jeunes. Enfin, ils font ça en dehors de la ville où eux habitent en fait, comme ça ils sont moins repérés.
Une manière de faire qui, depuis le drame, nourrit les rancœurs. Dans un parc voisin, quelques jeunes envisagent déjà de répéter ce schéma en sens inverse vers Dourdan. Saint-Chéron, Johanna Chabas, Europe 1.
Le débat autour des menus scolaires sans viande aura au moins provoqué une carence en harmonie au sein du gouvernement.
Ça fait deux jours que des ministres s'étripent sur le sujet. Du coup, tout vient de la ville de Lyon qui a décidé donc de proposer ces menus. Et tant pis s'il s'agissait, selon elle, de simples considérations pratiques face aux règles sanitaires. Le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, a parlé d'une mesure idéologique. La ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, a elle dénoncé un débat préhistorique. Et il a fallu que le Premier ministre, Jean Castex, lui-même s'interpose. Claudia Bertramin.
Oui, le Premier ministre siffle la fin de la récré. Dans un mail adressé la nuit dernière à tous les ministères, le cabinet de Jean Castex déplore, je cite, une forme de cacophonie ministérielle et rappelle très clairement la méthode, calage en amont, alignement en aval. Et en guise de conclusion, moins nous alimentons les polémiques autoportées, mieux nous nous portons. Si le couac gouvernemental semble géré, c'est au tour de la majorité de se déchirer par tweet interposé. Jean-Baptiste Moreau, porte-parole d'En Marche et agriculteur, s'en prend directement à Barbara Pompili, qui l'accuse de manquer de loyauté. Hugues Ranson, vice-président de l'Assemblée, vient à la rescousse de la ministre. Les parlementaires, c'est du grand n'importe quoi. Ils se tapent dessus, lâchent dépité un membre du gouvernement. On a succombé à un geste provocateur du maire écolo de Lyon, se désole un député. Et certains s'inquiètent de tensions qui annoncent des débats houleux au sein de la majorité lors de l'examen de la loi climat à l'Assemblée début mars.
Merci Claudia Bertram, service politique d'Europe 1.
Sur le front de la pandémie de Covid-19, les yeux se tournent aujourd'hui vers Dunkerque.
La ville du Nord où le taux d'incidence est particulièrement élevé, cela devrait conduire dans les prochaines heures à la mise en place de nouvelles mesures restrictives à l'image de ce qui a été décidé dans les Alpes-Maritimes. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, est attendu sur place.
La France cherche la meilleure voie à suivre avec peut-être désormais cette solution de confinement localisé.
Et en fait, à travers le monde en ce moment, chaque pays avance à son rythme. Entre les États-Unis et l'Irlande par exemple, c'est un peu deux salles, deux ambiances ce matin. Je dis salles parce que à New York, c'est un événement. Vous l'entendez, le public a fait son retour dans une salle de basket, la mythique Madison Square Garden. Alors, ce n'était pas l'ambiance des grands soirs, hein, il y a une jauge de 10% de spectateurs, mais le symbole est fort. Alors que pendant ce temps en Irlande, c'est le silence du confinement qui se poursuit. Décision annoncée par le chef du gouvernement, Michael Martin.
We need to use the month of March.
Nous devons profiter du mois de mars pour faire baisser le nombre de cas le plus possible. Nous allons nous en sortir. Nous devons juste rester concentrés. Confinement prolongé jusqu'au 5 avril en Irlande.
L'Allemagne, elle, on le sait, a choisi le durcissement de ses frontières face à la circulation du virus.
Une attitude qui déplaît à la Commission européenne. Hélène Kohl, Berlin va devoir présenter des explications à ses partenaires.
L'Allemagne est sommée de faire la transparence sur toute une liste de points précis détaillés dans un courrier de 4 pages, avec à chaque fois une question sous-jacente. Cette mesure est-elle proportionnée? Par exemple, comment justifier que les policiers allemands bloquent des tchèques à la frontière au motif que les résultats de leurs tests PCR négatifs ne sont pas présentés dans la bonne langue? Selon les critères sanitaires européens, il n'y a d'ailleurs pas de raison de classer la République tchèque comme zone à haut risque. Et pourtant, Berlin veut prolonger les contrôles stricts pendant au moins 10 jours encore. L'Allemagne est aussi priée d'être plus cohérente. S'il est possible de mettre en place une coordination frontalière sanitaire étroite avec la France et d'éviter la fermeture de la frontière avec la Moselle, alors l'Allemagne a-t-elle vraiment étudié toutes les pistes avant de verrouiller les accès au Tyrol autrichien ? À Berlin, on se justifie péniblement en expliquant qu'il s'agit juste temporairement de protéger les efforts consentis par les Allemands depuis 2 mois pour faire baisser l'incidence. Elle est autour de 60 cas pour 100 000 habitants actuellement. Berlin, Hélène Kohl, Europe 1.
Et Thierry Breton, le commissaire européen en charge du marché intérieur, sera mon invité dans 5 minutes sur Europe 1 ce matin. Dans un tout petit instant, nous vous emmenons dans le Lot-et-Garonne, où la tension monte autour d'un barrage déclaré illégal.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h11 sur Europe 1, la suite du journal, Rémi Bostaron.
C'est un lac qui est apparu il y a 3 ans et qui est censé disparaître aujourd'hui. Le lac de Caussade, utilisé par les agriculteurs pour l'irrigation. Les associations environnementales n'en veulent pas et la justice vient de leur donner raison. Le barrage est jugé illégal, il doit être détruit. Une issue inimaginable pour le président de la Chambre d'agriculture du Lot-et-Garonne, Serge Bousquet-Cassagne.
Le lac est terminé depuis maintenant 2 ans. Il va permettre à vivre à 27 familles d'agriculteurs. Il a fait ses fonctions d'écréteur de crues pendant les crues de la Garonne il y a 15 jours. Il a permis d'irriguer l'été dernier. Il irriguera l'été prochain. Je crois qu'il est en place pour 1000 ans maintenant à peu près. Il est dans la vraie vie, complètement légal dans la vraie vie. Et cela nous suffit bien. Les environnementalistes ont demandé la remise à l'État, c'est-à-dire qu'il faut péter la digue et tout recommencer. Là, par contre, les agriculteurs et toute la ruralité se mobiliseront pour empêcher cela. Ça peut avoir des conséquences particulièrement dramatiques. Si on nous envoie les bulldozers, nous répondrons à la hauteur de l'attaque.
Serge Bousquet-Cassagne au micro de Benjamin Peter.
Nous vous avions emmené il y a quelques semaines dans une forêt où l'on sectionnait des chênes destinés à reconstruire Notre-Dame.
Mais pour reconstruire une cathédrale, vous en doutez, le bois ne suffit pas. Il faut aussi un peu de pierre, des pierres qui sont elles aussi sélectionnées en ce moment parmi les carrières candidates, celle de Bonneuil-en-Valois où s'est rendu Pierre Herbulot.
De gigantesques blocs de calcaire sortent des entrailles de la carrière. 40 km de galeries souterraines qui renferment peut-être les futurs murs de Notre-Dame. C'est en tout cas l'espoir du gérant Bruno Gauchy.
C'est plus qu'un chantier pour nous. Vous savez, j'étais dans mon poste de télévision lorsque Notre-Dame était en train de brûler. C'est vrai que pour nous, c'est un honneur de travailler et de fournir de la pierre pour cet édifice, bien sûr.
Des experts géologues ont déjà récupéré des échantillons de sa roche pour en tester la résistance, voir comment elle pourrait être utilisée. Pierre de façade, corniche ou même gargouille, la mission d'une vie pour Michael Rubalot, le tailleur de la carrière.
Peu importe, rien que déjà mettre sa main, rien que même faire des joints.
Des joints de Notre-Dame, ce serait pas mal, ça.
Voilà, exactement. Quel tailleur de pierre ne voudrait pas travailler sur Notre-Dame et puis suivre les anciens en fait. Alors bon, c'est sûr qu'on ne fait pas le figure par rapport à ceux qui nous ont précédés. Hein. Nous ne sommes que des nains sur les épaules des géants.
Le travail, lui, est titanesque. Les outils de Michael ne suffiront pas. Le chantier pourrait impliquer la dizaine de gisements de roches calcaires du bassin parisien. À Bonneuil-en-Valois, Pierre Herbulot, Europe 1.
Et puis Mathieu, si je vous dis self-esteem, les années 90, une musique sur laquelle vous pouvez balancer vos longs cheveux, l'acné aussi, vous me répondez donc
The Offspring.
Ils sont toujours là, ils sortent ce matin leur nouveau titre qu'on va entendre tout de suite.
Ça ressemble à The Offspring.
Ah oui, c'est ça. On reconnaît vite en fait. Let the bad times roll.
C'est l'acné qui revient là, sous le masque. Merci Rémi Bossard. C'était le journal de 8h qui termine en musique avec The Offspring. Merci Rémi, il est 8h14.